Chers auditeurs de Radio Courtoisie, eh bien nous poursuivons cette émission en compagnie du pasteur Alain Joly, émission consacrée à la fête de la Transfiguration, en compagnie justement de Jean-Sébastien Bach, puisque le pasteur Alain Joly est un théologien, et donc il est parfaitement capable de nous enseigner cette fête qui apparaît un peu compliquée. Il la rend effectivement parfaitement compréhensible avec ce message de Christ, de Dieu, de Moïse aussi, et d'Élie, qui annonce, d'abord qui confirme en quelque sorte que Jésus est bien le Fils de Dieu, mais qui annonce son exode à Jérusalem, sa passion. Et c'est ainsi que cette passion va être rendue compréhensible, sans doute pour la première fois, aux apôtres, qui ne l'imaginaient pas, puisque le pasteur Alain Joly nous a rappelé la réaction de Pierre, hein, lorsque le Christ lui dit « Pour toi, qui suis-je ?» Et Pierre, effectivement, dit bien « Tu es le Fils de Dieu », mais refuse d'envisager que Jésus puisse souffrir sa passion et mourir sur la croix à Jérusalem. Nous en étions là, monsieur le pasteur, et je vous propose de poser encore un certain nombre de questions que vos explications font surgir. Alors la première question que j'aimerais vous poser, effectivement, c'est pourquoi Jésus est monté sur la montagne.
C'est le lieu ordinaire de sa prière, son écart. Il se met à l'écart, il emmène trois des siens à l'écart pour prier
c'est
avec eux.
C'est toujours pour prier. Ça la montagne, c'est ce que représente la montagne.
Pas seulement, non. Parce que figurez-vous que l'expression d'une montagne élevée se trouve dans une seule autre occurrence, si on accepte les épisodes de la Transfiguration, c'est la montagne de la Tentation. Dans l'évangile, qui au commencement du ministère public de Jésus, le Saint-Esprit pousse Jésus sur une montagne haute, une montagne élevée, afin qu'il fût tenté par trois fois par le Satan, par l'adversaire. Donc c'est pas rien ça. Le fait de monter sur la montagne, ça pourrait être symboliquement, c'est facile à comprendre, s'approcher de Dieu, être dans le grand souffle d'un vent qui détache du brouhaha du monde qui est en bas de la montagne, etc. Le côté désertique, le côté aride, abrupt, ça a été le premier combat spirituel de Jésus, remporté victorieusement bien sûr sur l'adversaire. On est là dans aussi une forme peut-être moins de combat, ça paraît moins explicite, mais tout de même pour les apôtres, c'est une épreuve. Il les a emmenés prier, il les bouscule avec une vision dont ils devront plus tard être les responsables.
Et en plus, ils sont épuisés.
Et ils sont fatigués.
Ils sont fatigués, ils sont lourds de sommeil. Voilà. Oui.
Mais ils restent éveillés quand même, ils ne dorment pas complètement comme à Gethsémané, mais pourtant c'est les mêmes trois. Ils font effort pour accueillir finalement cette grâce qui leur est faite, parce qu'ils ont bien conscience que c'est une grâce. Et Pierre dit, il est bon que nous soyons ici. Il est bon que nous nous posions finalement ici. Or, ce n'est pas un lieu de se poser. La montagne n'est jamais chez Jésus autre chose qu'une transition, une sorte de respiration avec la puissance du sacré, avec la présence du Père, avec la présence de l'Esprit. Il était poussé au désert pour la tentation par l'Esprit. Et là, l'Esprit va se manifester puisque on entendra, ils entendront la parole du Père venant des nuées. Celui-ci est mon fils. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'intimité du Dieu trinitaire auquel ils sont associés, mais qui ne doit pas durer très longtemps. Il faut bientôt redescendre de la montagne. D'ailleurs, c'est clairement dit, ils descendent de la montagne. Et il n'y a plus que Jésus tout seul, il n'y a plus de gloire et tout ce
spectacle. Monsieur le pasteur, a-t-on identifié cette montagne ?
La tradition veut depuis le IVe siècle que ce soit le mont Tabor, qui est un des monts de révélation de Dieu pour le peuple d'Israël, mais on dit souvent aussi l'Hermon. Et d'autres encore, parce qu'il ne s'est pas mentionné. De toute façon, on n'est pas très loin de Jérusalem non plus, donc il ne faut pas chercher des montagnes invraisemblables, trop hautes. Il est probable que ce soit au nord, dans la région de Césarée de Philippe. Mais l'importance d'identification n'est pas nécessaire, là. L'essentiel, c'est la montée, la prière, le silence initial, la dimension peut-être d'être confronté à l'inattendu, et cet inattendu qui même bouleverse et oblige à l'épreuve. Vous vous souvenez que Jésus était éprouvé par la tentation. L'épreuve et tentation, c'est très proche hein, dans la compréhension juive et chrétienne. Et là, il y a aussi une épreuve pour eux. Il se confronte à quelque chose qu'il n'aurait pas voulu, et finalement, il trouve que c'est bien. Il est bon que nous soyons ici.
Vous
et
écoutez,
ils veulent tout arrêter.
Vous écoutez, Pasteur Lagy, on a un peu de mal à comprendre pourquoi c'est une fête mineure.
Ah oui,
certainement. Dans l'Église, vous savez bien mettre en valeur justement les caractères importants de cet événement. J'aimerais vous poser la question aussi concernant Pierre, Jacques et Jean. Donc, Pierre, Jacques et Jean, ces trois disciples que... trois apôtres que Jésus emmène avec lui. Pourquoi pas les autres? Pourquoi seulement Pierre, Jacques, Jean et pourquoi eux?
Ils sont distingués à plusieurs reprises. Il y a aussi à Gethsémani, comme on l'a évoqué tout à l'heure, donc à la fin, juste avant l'arrestation et la croix. Ils sont aussi les seuls témoins que Jésus amène avec lui pour guérir le fils de Jaïrus. Il ne veut personne d'autre, et l'évangile c'est très clair là-dessus dans saint Marc, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Et d'ailleurs, la mention explicite à chaque fois de la fraternité de Jean et Jacques. Ce sont, en quelque sorte, les guides du collège apostolique pour la suite. Sur le moment, Pierre est vraiment le plus enthousiaste, et puis un peu le patron du groupe. Ça paraît évident. Il parle le premier, il anticipe, il veut empêcher des choses, et c'est formidable, d'ailleurs. Et il deviendra, bien sûr, celui sur lequel l'Église est fondée de par la volonté du Christ. Mais les autres aussi, Jean, c'est celui qui est au pied de la croix et qui va, le disciple que Jésus aimait, et qui reçoit sa mère chez lui. Et lui, il la reçoit comme mère, alors qu'il en a évidemment une naturelle. Et Jacques et son frère, l'idée de frère, c'est la prolongation. Et Pierre, c'est un peu l'institution. Jean, c'est la spiritualité, et c'est l'accueil intime du Christ, et même de la vie qui est en Christ, par la mère. Et puis, le frère de Jean. Jacques et Jean sont frères. Ça veut dire qu'il y a une possibilité maintenant Jacques est en quelque sorte celui qui ouvre la plénitude des autres. Alors que font les autres d'ailleurs en ce moment-là? Ben, ils dorment peut-être tranquillement dans leur coin. Et ils sont allés se reposer. En tout cas, c'est pas dit, mais c'est pas nécessaire non plus parce que c'est pas une affaire collective. C'est pas une sortie. Pardonnez-moi, c'est un peu trivial, mais comme si le professeur va emmener ses élèves au château de Versailles ou au musée d'Orsay. Tout le monde doit être là. Mais non, c'est pas quelque chose qui va être offert à tous, peut-être justement parce que il va falloir que ces trois-là maintenant, Pierre, Jean et Jacques, après la résurrection, cisèlent leur témoignage. Il ne faut pas que tout le monde dise oh « ben moi j'y étais aussi, moi ceci, moi cela ». Il y a quelque chose de l'ordre de la responsabilité de chacun des trois, Pierre, l'institution de l'Église, Jean, le témoignage spirituel et le lien avec la vie en Dieu, et Jacques, le frère, c'est-à-dire une multitude de frères qui entendront cela, mais ces trois-là sont les garants du témoignage et de l'autorité de ce témoignage.
Pourquoi, d'après vous, l'évangile de Jean ne mentionne pas la transfiguration?
Je ne sais pas répondre à cette question, sinon que Jean évoque la réalité de qui est Jésus, et on va justement l'entendre dans la musique de Jean-Sébastien Bach. Vous me demandiez tout à l'heure comment Bach nous aide à entrer dans la compréhension, l'explication, l'intelligence des Écritures. Ben voilà, j'ai choisi l'ouverture d'une cantate du dimanche de la Pentecôte de 1725. Et c'est une parole de Jésus, dans la traduction de Luther, bien sûr, parce que c'est toujours en allemand. C'est l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 23. « Celui qui m'aime gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons demeure chez lui. » Juste une petite chose avant. Vous ne m'avez pas encore interrogé, mais on a évoqué un peu les tentes.
On va en parler, si vous voulez bien.
Établir la demeure là, sur la montagne, avec eux, ils sont bien ici. Ils seraient bien tous les six, finalement. Hein. Eh bien, dans l'évangile de Jean, à la place de la transfiguration, il y a cette parole, nous, le Père et moi, le Père des cieux, nous ferons demeure chez celui qui croit, celui qui m'aime, exactement. Wer mich liebet, der wird mein Wort halten, celui qui m'aime gardera ma parole, et vous voyez aussi la résonance de celui-ci est mon fils, écoutez-le. Écouter sa parole. Donc dans l'évangile de Jean, il y a autre chose, une autre dimension qui nous touche et nous rejoint sans qu'on ait eu la vision de la transfiguration. « Wer mich liebet, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Celui qui m'aime gardera ma parole et mon Père l'aimera und wir werden zu ihm kommen et nous viendrons à lui und Wohnung bei ihm machen et nous ferons demeure et demeure chez lui nous ferons. C'est l'ouverture de la cantate 74 pour la Pentecôte, toujours avec mes très chers Thomas Norcore de Leipzig sous la direction du regretté Biller, avec une introduction instrumentale aussi éloquente, audacieuse, avec la tonalité ut majeure, c'est celle, comme disait Matheson, qui donne libre cours à la joie, éclat, solennité, et puis à cinq reprises, l'énoncé par, par deux voix couplées, donc il y a quatre voix, hein, vous savez, soprano, alto, basse et ténor, et elles sont par deux, pour énoncer à cinq reprises cette parole de Jésus et terminer toutes les quatre ensemble. Et ça se termine avec tous les instruments. Peut-être à un autre moment, je dirais aussi cette présence des instruments dans la cantate quand il y a quelque chose qui n'est pas chanté. Les instruments aussi ont un langage. Là, ici, ça se termine aussi. Donc après la parole de Jésus, il y a comme tous les univers avec les instruments qui, au-delà des voix humaines, annonce cet amour et cette demeure de Dieu parmi les siens.
Cher pasteur Alain Joly, nous avons des questions, des remarques d'auditeurs que je vous propose. Tout d'abord, un auditeur qui vous pose cette question. Comment Jésus, qui incarne la douceur et le sacrifice de soi, peut-il s'entretenir avec deux figures qui ont du sang sur les mains? Élie, qui massacre les prêtres de Baal, et pour Moïse, point n'est besoin de préciser. Bon, j'aimerais bien qu'on précise quand même pour Moïse. Voilà, ces distorsions me font douter, écrit, nous dit cet auditeur, de l'authenticité de la scène de la transfiguration.
Mais ce sont des questions intéressantes, je les reçois volontiers. Élie et Moïse, effectivement, sont l'un et l'autre plus ou moins criminels. Et Moïse a été l'assassin, vous savez, au début de son histoire en Égypte, sur la plage. Mais l'essentiel n'est pas dans leur personnalité, en fait, elle est dans ce qu'ils représentent. Élie représente tous les prophètes. Et donc Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe, Daniel, tous les autres. Et on peut avoir nos préférences et on aurait peut-être aimé que ce soit Daniel, l'homme de prière qui explique les songes, etc. Ou Ézéchiel avec des prophéties très très fortes sur la résurrection, ou Ésaïe avec le serviteur souffrant. Bon, bah c'est Élie, c'est comme ça. Mais c'est parce que Élie aussi est celui qui a été enlevé au ciel. Et donc, il y a comme le fait qu'il n'y aura pas de doute sur l'idée qu'il est vivant auprès de Dieu. Il n'est pas dans un tombeau. Alors, Brême m'a répliqué que pour Moïse, il y a un tombeau. Quoique, c'est très clairement dit dans l'Écriture, il n'est pas localisable. Les Hébreux ne savaient pas où on avait déposé Moïse. Mais ce sont des choses très secondaires. L'essentiel, c'est que lui, Élie, représente tous les prophètes et Moïse représente la loi. Donc c'est pas les personnages en tant que tels, c'est le fait que par eux, qui sont pas meilleurs que nous, qui sont des pécheurs comme nous, mais choisis par Dieu, pour une mission, par eux, la parole de Dieu est passée. Par eux, Dieu a fait alliance. Par eux, Dieu tient sa promesse. Et ils sont là comme le cheminement par étapes. Rappelez-vous qu'à la finale de Saint-Luc, lorsque les pèlerins d'Emmaüs s'écartent de Jérusalem pour aller vers cette petite ville d'Emmaüs, Jésus leur expliquait tout ce qui le concernait dans la loi et les prophètes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une continuité, une fidélité de Dieu dans sa manière de s'adresser aux hommes. C'est donc pas Élie ou Moïse en tant que tel, mais c'est parce que par Élie et par Moïse, Dieu s'est adressé à son peuple d'Israël.
En quoi Moïse est-il un assassin?
C'est l'histoire en Égypte, on va peut-être pas...
En trois mots, quand
non,
même.
Non. Vous aviez la finale de cette interlocuteur...
Oui, mais la finale, en fait, auditeur. Notre auditeur conclut en disant que vous allez lui reprocher d'être martionnite. Mais j'aimerais bien qu'on savoir, qui tue Moïse en Égypte? Moi, j'ignorais que Moïse avait tué quelqu'un.
Au texte du livre de l'Exode, et la jeune, quand Moïse est encore à la cour d'Égypte, vous savez que c'était le fils recueilli sur le Nil par une princesse égyptienne. Eh bien, laissons ça en suspens pour... Mais surtout, moi je trouve intéressant de questionner le texte biblique. J'ai dit, je répète, même si ça fait un peu redondant là maintenant, mais il n'y a pas d'évidence dans l'histoire de Dieu avec nous. Dieu utilise même des gens... Alors, ceux-là sont tout de même recommandables par autre chose. Hein. Moïse est recommandable par autre chose que par ce petit épisode de l'assassinat. Mais Dieu nous utilise. Et Pierre n'est pas non plus très recommandable dans le fond quand il abandonne complètement Jésus. Non, je ne le connais pas, je ne le connais pas. Alors qu'il était à la transfiguration, hein. Vous auriez pu, monsieur Delcourt, rapprocher... le fait que Pierre, dans la cour qui précède l'endroit où Jésus est en procès, dit « Je ne connais pas cet homme », alors qu'il a bénéficié de la transfiguration, il a entendu la parole et qui sera ensuite la pierre de l'Église.
Il a une faiblesse, ce n'est pas un assassin.
Non, non, mais là,
il a une faiblesse, et tout le monde a des faiblesses à un moment ou un autre.
Il n'y a pas de degré dans le péché.
Si, quand même, un peu.
pas dans la responsabilité.
Dans les conséquences vis-à-vis des autres.
Des hommes et des femmes qui ont eu à témoigner de la miséricorde de Dieu ou de la puissance de Dieu et du Dieu comme juge et comme auteur et dispensateur de sa grâce. C'est pas un crime, j'ai entendu, mais de trahir Jésus jusque-là. C'est-à-dire, moi, je ne le connais pas, mais pourtant, tu as une voix, on reconnaît, puis tu étais avec lui. Non, je n'en suis pas. Vous, M. Delcourt, peut-être que vous auriez eu dit, si, je suis avec lui, je vais mourir avec lui. Je n'en suis pas certain, parce qu'aucun de nous, en fait...
Je me garderais bien de toute présomption.
Laissez-moi dire qu'il faut dépasser, justement, cette approche trop humaine, humanisante, moralisante, etc. Pierre, c'est très bien qu'il soit tombé dans le péché d'avoir trahi Jésus. C'est formidable et c'est nécessaire. Et les papes l'ont dit bien avant moi. Tous les papes reconnaissent ça. Il fallait qu'il tomba aussi. Et pour être le premier d'entre nous, si Pierre et le pape doivent être le premier, il l'a joué un peu trop loin, que ne retenez pas trop ce que je raconte là maintenant, mais l'humanité est tout entière pécheresse. Il n'y a pas quelques-uns qui n'auraient pas besoin du salut et de la grâce. Jésus donne la grâce à Pierre comme il nous la donne à nous autres pécheurs autrement, et qu'il l'a donnée au criminel, s'il lui plaît, dans la miséricorde de son Père, de l'accorder. Il a fallu que Pierre, et les autres, c'est pas mieux, tous marqués du sceau du péché, soient marqués du sceau de la grâce. Luther avait une formule qui déplaît beaucoup en général, mais qui, parce qu'on l'interprète mal, pêche fortement et tu recevras encore plus la grâce. Je résume, ça se dit en latin. Et c'est, dans le fond, c'est très juste. Nous ne pouvons pas arriver devant Dieu en disant « Mais moi, j'ai compris, je sais, je t'ai aimé avant tout le monde, j'ai fait aucune faute. » Qui a fait aucune faute ? Pas Pierre. Et la faute de Pierre, elle est intéressante, parce qu'elle est en regard de son amour de Jésus. C'est lui, le même, qui dit « Je ne le connais pas. » Il a dit « Tu es le Fils de Dieu. » Eh bien, c'est formidable. Moi, je dis « Saint Pierre, à cause de ces deux paroles. » Il est saint pour les deux paroles, parce qu'il est touché par la grâce. Ce n'est pas lui de lui-même qui le dit. Jésus lui dit, c'est pas l'esprit humain qui t'a fait déclarer que je suis le Fils de Dieu. Et c'est aussi le lieu de la grâce que de dire, dans la plus atroce misère humaine, que l'on ne connaît pas Jésus. Et en fait, bien sûr, Pierre, m'aimes-tu ? Mais oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et ben voilà. Alors, on a fait une petite digression, mais elle était, je pense, nécessaire pour que Pierre, Élie, Moïse, Jacques et Jean soient rangés du côté de l'humanité pécheresse et non pas du côté de la gloire de Dieu.
Monsieur le pasteur, un autre message, une autre question. Comment se fait-il que la transfiguration ne soit pas racontée par Jean, alors que si l'auteur est le fils de Zébédée, il est censé y avoir assisté? Enfin, que pense votre invité du tableau de Raphaël au Vatican qui passait, selon Vasari, pour le plus beau tableau de tous les temps, même s'il mêle deux plans sans lien entre eux, avec en bas une scène de guérison d'enfants épileptiques, si je me souviens bien?
C'est la suite du récit de la Transfiguration. Quand il descend de la montagne, la foule attend Jésus et veut voir Jésus, parce qu'il faut que ce Jésus soit cela aussi, celui qui vient au cœur de nos misères humaines, et donc il va guérir l'enfant épileptique. Donc c'était un tableau évidemment génial dans les collections du Vatican. Pour le reste, on a plus ou moins répondu déjà. Pour Jean, évidemment que c'est celui-là, et que c'est celui le frère de Jacques, et que c'est celui qui est le disciple bien-aimé, qui recueille sa mère, qui écrit l'évangile, probablement aussi les lettres et l'Apocalypse, et bien c'est ainsi. Son témoignage à lui, comme je l'ai souligné tout à l'heure, c'est de répéter des paroles de Jésus qui ne se trouvent pas chez les autres, chez Matthieu, Marc et Luc, et qui concernent la lumière et l'orientation vers le salut. D'ailleurs, je voudrais vous faire entendre un extrait d'une cantate, toujours la 74, celle qu'on a entendue il y a quelques minutes, donc pour la Pentecôte. C'est un air à la voix de basse, sur un verset de Jésus, dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 14, verset 28, c'est même le cœur du verset, il y a quelques mots avant et après, en allemand, « Ich gehe hin, je m'en vais, und komm wieder zu euch, et je viendrai à nouveau vers vous, hättet ihr mich lieb, si vous m'aimez, so würdet ihr euch freuen, vous vous réjouirez. » Je reprends, « Je m'en vais, et je viendrai à nouveau vers vous. » Ça, c'est une parole de Jésus. Elle est l'équivalente à la transfiguration, d'une certaine façon. « Si vous m'aimez, vous vous réjouirez. » Et là, avec le mot « freuen » en allemand, il y a beaucoup de vocalises que vous allez entendre chanter à la voix de basse, avec le seul soutien du continuo. Dans l'enregistrement ici, c'est violoncelle et petit orgue. toujours le Thomannorchor de Leipzig, avec donc une voix de basse. C'est la tonalité de mi mineur. Elle est à la fois l'aspiration à la consolation, et puis il y a un côté très, très décidé, très obstiné, très obsédant même, du mouvement régulier des notes jouées par le continuo, violoncelle et orgue positif. Et d'ailleurs, ça se termine là aussi sur la musique instrumentale. C'est intéressant parce que ça signale, me semble-t-il, que la parole de Jésus, toute parole de Jésus, est enchâssée dans la musique qui dépasse les voix humaines. C'est une voix humaine, c'est la voix de basse, ce qui est traditionnellement la voix du Christ, de surcroît. Hein. C'est comme si le Christ lui-même s'exprimait, sauf qu'il ne s'exprime pas comme ça, de but en blanc, mais il y a un peu de musique avant. Et quelle musique ? C'est une musique presque rampante et obstinée qui va signifier qu'après tout, c'est pas simple cette montée, cette descente de Jésus, mais elle est lumineuse, bien sûr. Et puis à la fin encore, c'est la musique qui continue pour dire... Quand on a reçu la parole, il faut encore l'accueillir.
Chez Bach, la voix de basse, c'est toujours Jésus. Vox
Christi. Non, bah non.
Enfin, Jésus s'exprime toujours en voix de basse.
Voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faut le dire.
Oui.
Mais quelquefois, c'est très très subtil. Des paroles qui sont prononcées par l'âme, par le croyant ou par l'Église, le sont par la voix de basse, comme si Jésus lui-même apprenait à l'Église ou à chacun de nous à prier ou à dire correctement quelque chose. Ça, c'est l'humanité de Jésus comprise par Bach dans cette communion d'amour extraordinaire. Mais ici, c'est bien le Christ qui parle.
Wieder zu euch. Ich gehe hin und komme wieder zu euch. Ich gehe hin. Ich gehe hin und komme wieder zu euch. Ich gehe hin.
Cher pasteur Alain Jouly, un message d'auditeur à nouveau. Quelle était la durée des offices luthériens du temps de Bach, nous demande notre ami auditeur. J'imagine que rester ainsi dans le froid et devait vous faire attraper la mort, surtout en hiver, ou bien des poêles étaient-ils allumés pour les fidèles. Je conçois que certains soient arrivés en retard. Vous avez évoqué le retard des notables. Étaient-ils plus frileux que les autres ? Y avait-il aussi l'équivalent des vêpres et des complies ? À l'époque de Bach.
Oui, bien sûr, mais à l'époque moderne aussi. Nous avons dans nos livres de liturgie de quoi célébrer l'office du matin et l'office du soir. Et les compliques qui terminent la journée, alors c'est plutôt un office monastique, l'office de complique, qu'un office paroissial. D'une manière générale, l'office luthérien dure comme la messe catholique au XVIIe et XVIIIe siècle. S'il n'y a pas de musique avec des cantates, ça dure 1 heure et demie. Le plus long, c'est la distribution de la communion. Et chez nous, à Leipzig, au XVIIIe siècle, l'office du dimanche matin, qu'on appelle Gottesdienst, pouvait durer 3 heures. Mais pas parce qu'il y avait 3 heures de parole et de musique, mais parce qu'il y avait un moment où il y avait la distribution de la Sainte Communion devant l'autel, à genoux, par tablée. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 40 personnes qui défilent les unes après les autres pour se présenter à recevoir la communion agenouillée devant la barrière. Et donc ça dure 3 quarts d'heure, 1 heure, sans problème. Alors on chante des cantiques, on joue de la musique, c'est vrai. Voilà. Mais sinon, dans les paroisses ordinaires, chauffées ou non, parfois dans les églises de village, on voit qu'il y a un poêle, hein, en Allemagne, en Saxe ou en Thuringe. Ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Ce qui était très long les dimanches, c'était la prédication du pasteur. Elle pouvait durer 1 heure. Mais les gens ne s'ennuyaient pas, ils n'allaient de toute façon pas ensuite regarder la télé ni jouer au loto. Donc c'était l'occupation du dimanche. Et quand on avait terminé, on rentrait bien sûr à la maison pour déjeuner ou on allait au restaurant, au café. Il y en avait beaucoup à Leipzig. Et on revenait pour les vêpres l'après-midi. Bach a écrit de la musique pour les vêpres. En particulier, son Magnificat, c'est un Magnificat pour l'office de l'après-midi à l'église luthérienne de Leipzig.
Et puis un autre message d'auditeur. Au début du XXe siècle, nous dit-il, Bach a seulement été joué par les calvinistes. Oui. Qu'en est-il pour les catholiques?
Alors ça, c'est une chose intéressante aussi. C'est le fait que dans le monde calviniste, qui n'est pas le monde luthérien, donc en Suisse, à certains cantons, aux Pays-Bas, en la France réformée, quand elle a pu exister, on ne jouait pas d'instruments et on ne chantait que les psaumes a cappella. Et donc, il n'y avait pas cette musique de Bach en possibilité d'être entendue. À la fin du XIXe siècle déjà, les calvinistes, donc les protestants réformés, retrouvent l'usage des instruments, de l'orgue en particulier, dans leur temple, et se mettent à faire entendre et à faire jouer par des musiciens ou par eux-mêmes les œuvres de Bach. Tandis que chez nous, les luthériens, c'est constant. Hein, on n'a jamais interrompu de jouer des œuvres des musiciens allemands du XVIIe et XVIIIe siècle, à des degrés différents d'intensité ou de qualité, bien sûr. Mais en tout cas, ça fait partie du patrimoine luthérien. Chez les calvinistes, c'est un apport par contagion récente. Et quant aux catholiques, moi je dirais que c'est à partir du moment où Mendelssohn et d'autres musiciens allemands et français ont redécouvert cette musique et l'ont offerte en concert à Londres, à Paris, à Vienne, à Berlin, bien sûr, à Dresde, d'autres endroits encore. Et à partir de ce moment, cette musique est tellement fascinée que on l'a fait entrer timidement dans les églises. C'était tout de même de la musique protestante, mais au début, c'est dans les théâtres et dans les salles de concert qu'on la donne, ou dans les églises protestantes qu'on va se déplacer pour l'entendre. Mais elle plaît tellement et ça provoque un tel engouement qu'il y aura par exemple à Paris une société Bach qui va être fondée par Gustav Brett, et auquel appartiendra Albert Schweitzer et Charles-Marie Widor et Maria Landowska, etc., qui vont faire connaître au grand public cette musique. Et puis à la longue, elle sera jouée, y compris parfois, donc dans les églises catholiques, dans des offices religieux catholiques, y compris avec des traductions françaises. Il y a même un abbé qui s'est fendu d'une traduction des Passions de Matthäus Passion, entre autres, et la Johannes Passion, de l'allemand en français, pour la faire chanter dans les églises catholiques, pour que les gens comprennent de quoi il retourne. Bon, c'est plus ou moins réussi, mais ça signale en tout cas l'engouement que Bach pouvait provoquer au-delà du confessionnalisme luthérien.
Alors je vous propose, Monsieur Pasteur, de revenir à la fête de la Transfiguration avec la question des tentes. Que veut faire Pierre? Quelle est la signification de sa proposition?
Il a une bonne intention, parce qu'il voudrait immobiliser ce spectacle extraordinaire et peut-être pouvoir profiter de la conversation qu'on a dite, qui paraît audible, en tout cas au témoignage de Saint-Luc, entre Élie, Moïse et Jésus. Cependant, si c'est rapporté avec... Ça paraît être une anecdote, ça paraît même être dérisoire comme intention. Il a probablement eu d'autres pensées et paroles à ce moment-là. Si on nous l'a raconté, c'est parce que, me semble-t-il, c'est tout le contraire de ce qui doit advenir. Il ne faut pas fixer, stabiliser, enfermer chacun de ces trois personnages, et au demeurant surtout Jésus, sous une tente. C'est une rupture de leur union, communion de conversation, communion d'amour, communion de sens, si on les sépare. Et évidemment, Jésus ne donne aucune suite à cela. Mais ce qui arrive ensuite, c'est que la nuée va couvrir tout le monde. Et spécialement aussi les trois qui sont là, qui leur fait de l'ombre. C'est-à-dire qu'avec Dieu, le Père, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, on n'est pas dans la séparation, dans l'individualisation des personnages, ou des paroles à entendre, ou des choses à percevoir. On est dans la communion. Mais qui préside et qui fait ce qui va couvrir, c'est pas l'homme. Pierre a une bonne intention, et vous pourrez me rajouter que Saint Paul fabriquait des tentes, si ça fait plaisir de tirer un peu comme ça jusqu'à l'autre occurrence des tentes dans le Nouveau Testament, puisque c'était son métier à Saint Paul. C'est Dieu qui couvre et qui unit, c'est ça que ça signifie. Et donc, en creux, l'intention de Pierre, elle est pour nous aussi de prendre conscience que nous ne devons pas enfermer la parole de Dieu dans des cases, mais bien la laisser librement s'épanouir et produire le fruit de l'amour qu'elle signifie.
Il n'y a pas de lien particulier entre la proposition de Pierre et le tabernacle.
Mais bien sûr que si. Oh là là, ça nous entraîne très loin, parce que probablement que cet épisode se passe au premier jour de la fête des tabernacles, qui dure sur plusieurs jours, et d'où ces mentions initiales d'ailleurs, hein, qui est le souvenir des tentes au désert, la sortie d'Égypte, etc., qui est toujours une fête juive. Mais ça évoque aussi la tente de la rencontre, qui est dans le livre de l'Exode, là encore. Il va falloir retourner dans l'écriture sainte du Premier Testament, souvent pour comprendre la transfiguration. Pierre a dans l'idée sans doute qu'il assiste à quelque chose de la présence de Dieu. Sauf qu'au lieu de laisser Dieu couvrir par la tente de la rencontre, comme et il demandait que ce fût fait liturgiquement et sacramentellement, d'une certaine façon, dans l'ancien Israël, si on peut se permettre ce mot, il veut, lui, décider de comment ça va se passer. On va fixer les choses, et puis peut-être que chacun d'entre eux pourra aller servir l'un des personnages. Mais non, la tente de la rencontre, celle de l'ancienne alliance comme celle de la nouvelle, c'est désormais Dieu qui la dresse, et cette tente n'enferme rien, elle libère au contraire la parole créatrice, aimante, et stimulante, dynamique, et qui envoie sur les routes du monde pour annoncer la bonne nouvelle.
Alors encore une question avant peut-être une quatrième pause musicale que vous avez préparée, monsieur le pasteur. Oui. Pourquoi Jésus demande-t-il aux disciples de ne parler de cette vision qu'après sa résurrection?
Parce que, imaginez qu'en descendant, la foule est nombreuse, elle veut entendre Jésus dire les belles choses qu'il a dites jusqu'ici, guérir l'enfant épileptique, etc. Et vous croyez que s'il a commencé à annoncer à tout le monde, eux qui n'avaient pas suffisamment saisi, qu'il doit souffrir, il doit être persécuté, les juifs vont lui faire du mal, etc. C'est impossible, ça n'a pas de sens. Et ça serait même le contre-témoignage. La vérité de l'évangile ne peut être annoncée que lorsque Jésus a souffert, est mort sur la croix, a été déposé dans un tombeau, est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, est monté au ciel où il siège à la droite du Père. L'évangile a sa pertinence, et c'est percutante, vraiment, pour le monde, seulement après ces événements. Et nous constatons qu'ils tiennent parole, ils ne racontent pas avant, parce que personne ne serait au clair. Ça embrouille, il faut aller doucement. Et quelqu'un a dit tout à l'heure de vos états, Jésus est doux, etc. Ben oui, voilà, il est doux aussi, il dit, vous avez bénéficié de cela, c'est vous plus tard qui serez les responsables de l'annoncer avec autorité, mais pas maintenant. Vous bousculeriez les gens, et les gens même se détourneraient peut-être de moi, Jésus, et de Dieu le Père. J'ai prévu de vous faire entendre un duetto de la cantate dont nous avons entendu un extrait en début d'émission pour la fête de la Réformation, c'est-à-dire le souvenir de la réforme de Luther qui se célèbre le 31 octobre dans nos églises, et donc à l'époque de Bach, évidemment. C'est un air à deux voix, la voix de soprane, chantée par un enfant ici. Vous savez que j'aime par-dessus tout l'excellence du travail des Thomas Norcor à Leipzig. Donc ce n'est pas une voix de femme, c'est vraiment une voix d'enfant, comme il était au temps de Bach, et comme ça continue de se chanter à Leipzig. Et la voix de basse, vous avez dit tout à l'heure, à juste titre, que c'est la voix du Christ. Alors ici, c'est un livret, donc c'est un texte qui a été écrit par un personnage, et pas, c'est pas de l'écriture, c'est pas la Bible qui est mise en musique. Ce sont deux voix, doublées d'ailleurs par les deux voix de violon, pour pas perdre de vue, à l'unisson, qui disent « Gott har Gott, verlass die deinen » Dieu a Dieu, n'abandonne jamais les tiens. Ah, Dieu n'abandonne jamais les tiens. Fais briller à nos yeux ta parole, même si furieusement les ennemis se déchaînent contre nous, que notre bouche proclame ta louange. Donc c'est le combat spirituel. Il y a une voix de soprane, c'est l'âme qui est confiante, mais il y a la voix de basse aussi, plus solennelle, qui peut être celle du Christ, qui s'associe à la voix finalement des croyants. Et c'est en si mineur de surcroît, donc il y a une gravité, une intensité, et c'est sans introduction. Tout de suite, paf, on va dire Christ et l'âme, Christ et vous et moi, nous nous adressons à Dieu pour lui demander de ne plus jamais nous abandonner, et de faire briller à nos yeux sa parole. On reste sur la transfiguration, même si c'est seulement en arrière-fond. Et il y aura des vocalises, d'ailleurs, sur ces mots. Dein Wort, ta parole, scheinen, briller. Et puis, une petite fin avec les instruments. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est comme la prolongation pour laisser... les croyants, l'Église assemblée, ruminer ce qu'elle vient de dire ou ce qu'elle vient d'entendre. Et là, c'est mêlé, hein, c'est victoire sur les ennemis qu'on entend par les voix de violon. Hein. Vous allez voir, c'est très très beau c'est entendre et voir en même temps, spirituellement. Et ça se conclut par la strophe d'un cantique qui était un cantique, il l'est encore d'ailleurs en allemand, d'action de grâce à la fin du repas. Alors c'est une strophe que tout le monde connaît hein, en Allemagne à cette époque-là, parce que c'est un petit chant de table, comme on dirait. Mais pour finir le repas, d'action de grâce, sur une mélodie de la fin du XVIe siècle, mais qui a été révisée par Johann Kruger en 1649. Et ça dit « Garde-nous, je le dis en français, là, garde-nous dans la vérité, donne-nous la liberté éternelle, pour que ton nom soit loué par Jésus-Christ. Amen. » Et c'est la fin de la première partie de cette cantate. Et ça enchaîne juste après ce duetto soprane et basse. Dieu n'abandonne, en s'adressant à lui, Dieu, s'il te plaît, n'abandonne plus jamais les tiens.
Oh, bless you. Radio Courtoisie, libre, sans publicité, sans subvention. 1,5 million d'auditeurs par semaine, des milliers d'écoutes en ligne. De 13 ans à 99 ans, vous nous écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en ligne. Désormais, les podcasts de Radio Courtoisie, les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous gratuitement. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous poursuivons après cette pause musicale et ce message de la radio notre conversation avec le pasteur Alain Joly. Je rappelle que le pasteur Alain Joly est théologien et spécialiste aussi de Jean-Sébastien Bach et qu'il est l'auteur de ce livre publié aux éditions Talendier, Bach, maître spirituel. Et on se rend bien compte, en effet, de l'importance et de l'aide que peut nous apporter Jean-Sébastien Bach à comprendre ces fêtes religieuses comme celle de la transfiguration que vient de raconter et d'expliquer le pasteur Alain Joly. En tout cas, il nous en fait découvrir tous les trésors. Pasteur Alain Joly, je vous propose les dernières minutes, les 10 dernières minutes de cette conversation, si vous voulez, d'évoquer l'importance de la transfiguration de nos jours, au XXIe siècle. Quel est le message qu'il nous adresse ?
Le même que tout le récit des évangélistes au sujet de la présence de Jésus au cœur de l'humanité. C'est un des épisodes au cours desquels Dieu a signifié son amour pour nous. Il faut le recevoir avec la même joie, le même amour, le même désir de compréhension que les autres épisodes de l'Écriture. Je ne pense pas qu'il faille le singulariser, même si nous avons parlé du fait qu'il y a une célébration spéciale le 6 août, ou une lecture le deuxième dimanche du carême pour l'Église catholique, la veille du mercredi, le dimanche précédent le mercredi des cendres, donc le carême pour les églises luthériennes. Dans l'orthodoxie, on a évoqué les icônes. Même s'il y a ce côté un peu de fécondité particulière de ce récit, dans des fêtes liturgiques, dans les icônes, dans la musique, en réalité, c'est une des étapes de l'histoire d'amour de Dieu avec nous. Et donc, c'est à recevoir si on a envie, si on est disposé d'aller un peu plus loin. Et voilà, si c'est un peu, si ça nous impressionne trop, lisons le récit qui précède ou celui qui suit. Voilà. À mon sens, tous les passages de l'Écriture ont leur valeur pour nous parler de Jésus et de l'amour de Dieu.
Mais comment aller plus loin avec ce récit, concrètement ? Comment le récit de la transfiguration peut-il nourrir notre vie ?
Notre prière, je dirais davantage. Oui. Notre prière pour notre vie chrétienne. C'est un épisode de contemplation. Même s'il y a un peu d'agitation avec Pierre, Jean et Jacques, mais nous qui entendons ce récit, qui le recevons de manière audible, visible, sonore, nous pouvons l'inclure dans notre prière, prendre du temps pour contempler simplement ce qui est dit dans ce récit, le contempler, l'accueillir, dire merci à Dieu pour cela, et ne pas en chercher une utilité autre que de nourrir vraiment notre foi, et donc notre engagement chrétien. Parce qu'ensuite, moi j'ai beaucoup relevé cela, surtout dans les prédications quand c'est l'occasion, Jésus descend avec ses 3 de la montagne pour aller à la rencontre de la foule. Et ça fait partie du récit de la transfiguration. C'est pas un moment suspendu, un éclair, et voilà, et on reste un peu béat avec cela. C'est ce qui précède l'arrivée de Jésus pour guérir l'enfant malade qu'une famille va lui présenter, avec une foule qui est avide de recevoir la parole de Dieu, la parole de vie. Voilà, donc descendre aussi de la montagne, le contempler, monter. Ça m'évoque à l'instant une homélie de Saint Jérôme sur Saint Marc, et spécialement ce passage où il dit que il fallait que Pierre aille là-haut avec les 2 autres, parce que s'ils étaient restés en bas, ils auraient vu seulement le vêtement sale de Jésus. Alors, c'est Saint Jérôme qui dit ça, hein, c'est pas moi. Mais
pourquoi
je trouvais
cela
le vêtement ordinaire, qui n'est pas blanc comme, vous savez, aucun foulon ne peut faire une blancheur pareille, le vêtement et le visage rayonnant et solaire. S'il était resté en bas, s'il n'était pas monté, lui et les autres, il n'aurait pas aperçu ce revêtement de puissance splendide et gracieuse de Dieu sur Jésus. Ils en sont restés aux vêtements ordinaires et sales de Jésus. Je trouve que c'est intéressant comme idée, parce qu'une fois qu'on est monté, on redescend. Et le Jésus, il porte un vêtement comme les autres, un vêtement qui peut-être d'ailleurs la sainte tunique, si, pourquoi pas. Mais il a porté un vêtement comme nos vêtements, l'un de nos vêtements. Et il nous revêt de sa grâce avec cela. Et saint Paul dira que nous avons revêtu le Christ. Ce petit passage en hauteur, au contact de la splendeur de Dieu, de la magnificence, même comme dit saint Pierre dans la deuxième lettre, ne doit pas être un but. Il faut redescendre de la montagne et, avec nos vêtements ordinaires ou ceux qui n'ont pas de vêtements, apporter le revêtement de la grâce.
Et pasteur, quand vous dites que pour nourrir notre vie et notre prière de la transfiguration, il faut la contempler. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il faut lire le texte et s'imaginer ce qui se passe? Quel est le sens
Moi, c'est une nécessité qu'un croyant doit être nourri par l'Écriture sainte qui porte la parole de Dieu et donc le témoignage de la transfiguration, entre autres. Quand je dis qu'il faut entrer en contemplation de cet épisode, peut-être l'imaginer, bien sûr, les peintres l'ont fait, on a dit pour les icônes, et on peut le faire en musique, même si c'était pas directement la transfiguration avec Johann Sebastian Bach, mais tout de même, c'est la fréquentation de l'Écriture, c'est la fréquentation de là où se trouve en vérité et de manière suffisante, pleine, salutaire, la parole de Dieu. Donc, dans notre prière, en fait, nous laisser rejoindre par un texte. On ne se donne pas à soi-même la vision de Dieu. On la reçoit, comme ils l'ont reçu les trois autres là, et qui nous en témoignent maintenant avec leur autorité apostolique. Contempler, prier, entrer dans ce mystère d'amour, ce n'est possible que par la proximité avec la parole de Dieu qui est posée dans l'Écriture sainte. D'où l'exhortation à lire le plus souvent possible, et avec amour, et pas forcément très longuement, ça peut être juste de lire 2-3 versets, puis les ruminer pour soi. Et à chaque fois, même avec vos questions sur les trois personnages, sur les tentes, sur on n'a pas suffisamment dit peut-être la parole qui descend sur Jésus, etc. À chaque fois, il y a suffisamment pour nourrir la pensée, la prière, et peut-être l'action, apporter cette bonne nouvelle au monde ensuite, auprès de ceux qui, comme nous, ont les vêtements sales, mais sont appelés un jour, avec Jésus, à être vêtus de vêtements de transfiguration, à être un jour, nous, devenus à la ressemblance et à l'image de ce Jésus.
Que peut apporter ce récit à quelqu'un qui est dans l'épreuve et qui souffre?
Ben justement, que Jésus se prépare à aller souffrir sa passion. Et c'est pas une méthode. Moi, je refuse l'idée de trouver des versets qui sont des passe-partout, je ne sais quelle boîte à outils dans l'Écriture. Simplement, se laisser accompagner, là. Se laisser accompagner par Jésus qui emmène sur la montagne, parce que c'est lui qui le fait. Alors déjà, rien que ça. Quelqu'un qui est, et nous le sommes aussi dans l'épreuve, dans la souffrance, nous laisser prendre par la main pour aller vers l'endroit et l'expérience qu'il a prévue pour nous. Et redescendre avec lui après, et aller encore même jusqu'à la croix, jusqu'à la résurrection, et encore dans les cheminements improbables des apparitions du ressuscité. Il leur expliquait en cheminant ce qui le concernait dans la parole de Dieu.
Et vous, pasteur Alain Joly, quel est ce qui vous touche le plus dans la transfiguration?
C'est pas une question facile ni ordinaire. Je ne sais pas, moi, je pense que la délicatesse de Jésus, qui laisse dire Pierre, mais qui surtout va permettre que la parole du Père tombe sur lui et soit audible pour eux. Cette délicatesse de Jésus qui se fait le passeur de l'amour, qui emmène, c'est l'initiative de Jésus. Moi, c'est touchant aussi, je dois dire, de la réaction un peu basique, un peu formel, un peu enthousiaste ou à demi éveillé, on peut dire plein de choses là de Pierre et des autres, mais c'est plus touchant encore d'être rejoint par Jésus dans cette histoire, et que Jésus a la délicatesse de prendre en compte la réaction de Pierre et la compréhension, comme on a dit suffisamment jusqu'à présent, et ensuite de nous conduire lui jusqu'à la pleine lumière. Cette lumière qu'on a entreaperçue, elle est celle que nous allons devenir avec lui, si on est en communion avec lui. Les orthodoxes, ils sont peut-être plus sensibles encore que nous sur cette dimension-là de la présence de Jésus et de l'avenir qui nous est promis. Donc, pour répondre à cette question un peu personnelle, un peu intime, je dirais que c'est vraiment la délicatesse, la douceur, le fait que Jésus nous rejoint et nous laisse la parole que le Père a décrétée que nous devions entendre pour notre bonheur.
Une dernière question, pasteur Alain Jouly, avant un dernier choix de pause musicale que vous allez nous annoncer. Donc, une dernière question. Si nous devions retenir qu'un seul message de ce récit de la transfiguration, lequel, selon vous ?
Celui-ci est mon fils, l'aimer, le bien-aimé, l'aimer par excellence. Je l'aime par excellence, dit Jésus, dit le Père envers Jésus. Et nous devons recevoir l'aimer. Celui-ci est mon fils, l'aimer. Le bien-aimé, celui en qui j'ai mis toute mon affection, la traduction peut se déployer. Écoutez-le, écoutez-le.
Merci
beaucoup.
Écoutez
Jésus.
Merci beaucoup, monsieur le pasteur. Je vais vous laisser la parole une dernière fois, en effet, pour nous annoncer les pauses musicales que vous avez choisies, qui vont nous conduire jusqu'à 21h. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie que vous êtes l'auteur de l'ouvrage aux éditions Talendier, Bach, maître spirituel. Alors, cher monsieur le pasteur, qu'avez-vous choisi ?
Le choral qui finit la première partie de la cantate sur la réformation, numéro 79, et qui dit « Nun danket alle Gott mit Herzen, Mut und Händen » et je dis la suite et même le début en français « Maintenant, rendez tous grâce à Dieu du cœur, de la bouche et des mains, à lui qui accomplit de grandes choses pour nous et partout, qui nous comble depuis le sein de notre mère » depuis notre petite enfance, beaucoup de marques de bonté, et encore, il le fait aujourd'hui. Le Thomanerchor de Leipzig, avec la direction de Biller.
Radio Courtoisie, nous allons donc terminer cette émission en écoutant Jean-Sébastien Bach, un choix donc du pasteur Alain Jouly qui va nous présenter. J'en profite pour remercier Stéphane à la technique qui a produit cette émission et puis notre cher standardiste qui a pris vos messages. Et chers auditeurs de Radio Courtoisie, merci pour votre fidélité. Très bon dimanche soir à vous tous et n'oubliez pas que Radio Courtoisie a besoin de votre soutien. Monsieur le pasteur Alain Jouly, alors, dernière pause.
Une cantate pour la fête de Pâques qui a été entendue à Leipzig en 1731. C'est la cantate BWV 172. Et ceux qui aiment comme moi les Thomanerchor de Leipzig entendront la voix en ténor du regretté Martin Petzold, qui a été l'un des pasteurs de Leipzig, l'un des meilleurs connaisseurs de la musique de Bach. Et puis les deux garçons, soprano et alto, qui sont des messieurs maintenant, Conrad et Robert, pour les voix solistes. La une des cantates pour la fête de Pentecôte, donc l'appel au Saint-Esprit, la vie avec le Saint-Esprit, Dieu le Père et le Christ Jésus, la numéro 172, interprétée par le Thomanerchor de Leipzig et le Gewandhaus Orchester, sous la direction de Georg Christoph Biller.
Thank you. Vous écoutez Radio Courtoisie.
Ich gehe hin.
Pour conclure ce libre journal des amitiés françaises dirigé par Thierry Delcourt et consacré cette semaine à la fête de la Transfiguration avec Jean-Sébastien Bach, nous venons d'entendre du maître de Leipzig deux cantates. Tout d'abord la cantate BWV 172, puis à l'instant un extrait de la cantate BWV 74. Toutes deux interprétées par le chœur de l'église Saint-Thomas et l'orchestre du Gewandhaus, placé sous la direction de Georg Christoph Biller. Ces œuvres de Jean-Sébastien Bach étaient tirées d'un disque compact Rondo Production. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dimanche prochain à 18h pour un nouveau libre journal des amitiés françaises. Vous venez d'entendre le libre journal des amitiés françaises dirigé par Thierry Delcourt, diffusé en direct sur Radio Courtoisie dimanche 2 août 2026 de 18h à 21h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.